Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, liberty and justice for all.
Bienvenue à tous dans l'Amérique et vous et sur VOA Afrique. Merci de nous recevoir chez vous. Eric Magrakiza au micro, à la mise en onde, Josène Morissin. Ce soir, nous parlons de la justice sociale. Le président américain Joe Biden a annoncé qu'il va effacer toutes les condamnations fédérales pour simple détention de cannabis. Il a aussi appelé les gouverneurs des États à suivre cette voie et à gracier les personnes condamnées pour un simple délit de détention de cannabis. 19 des 50 États américains et la capitale Washington DC ont déjà légalisé l'usage du cannabis à titre récréatif pour les adultes. Quels sont les enjeux? Quelles sont les conséquences de cette mesure du président Biden? Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Laura Peter, directrice adjointe à Human Rights Watch, en charge du programme américain. Elle est à New York. Bonsoir.
Bonsoir.
Laura Peter supervise le travail de Human Rights Watch sur les questions de droits de l'homme aux États-Unis, en mettant l'accent sur le système pénal américain et la justice raciale. Elle a mené des enquêtes sur les droits de l'homme aux États-Unis, au Moyen-Orient, en Asie centrale et en Europe, ainsi que des actions de plaidoyer approfondies auprès des gouvernements des États-Unis et d'Europe. Elle a également témoigné devant des commissions, des groupes d'experts et le Congrès américain. Voilà pour la petite ou grande biographie. J'espère que j'ai été fidèle à ce que vous faites et que vous avez fait.
Je pense que c'est parfait.
Merci beaucoup. Notre deuxième invité, Marc Papé, il est professeur de sciences politiques en Pennsylvanie. Bonsoir.
Bonsoir, Thierry.
Enfin, Dennis Beaver, avocat à Bakersfield, en Californie. Bonsoir, Monsieur Beaver.
Bonsoir.
Bienvenue dans l'Amérique et vous. Personne ne devrait être emprisonné pour avoir simplement consommé ou possédé du cannabis, a estimé sur Twitter le président Biden. Laura Peter, êtes-vous d'accord avec le locataire de la Maison Blanche?
This move on the part of the Biden administration was a very welcome news.
Cette décision de l'administration Biden est une excellente nouvelle. Elle va avoir un impact sur de nombreuses personnes. Je pense que le nombre de personnes condamnées est d'environ 6 000. Mais ce n'est vraiment qu'une petite bosse, le début de ce qui doit arriver pour la réforme de la politique en matière de drogue dans ce pays. Mais c'est un pas important dans la bonne direction. Il mérite donc d'être félicité pour cela. Elle exclut inexcusablement les non-citoyens, ce qui était frustrant pour nous, car même dans le système fédéral, plus de 70% des personnes accusées de possession de marijuana sont des non-citoyens. Mais là encore, c'est un pas important dans la bonne direction.
Dennis Beaver, bonne ou mauvaise décision du président Biden?
C'est une très bonne chose. La marijuana, c'est vraiment un peu comme la prohibition dans les années 20. Impossible d'acheter de l'alcool, les gens foutent en prison, choses comme ça. Donc, marijuana, c'est une nouvelle prohibition. Et c'est vraiment dommage ce qui s'est passé. Biden a bien raison, c'est une très bonne chose et j'espère que les 50 gouverneurs vont faire pareil. C'est très important. Avoir ça sur votre casier juridique, c'est un cauchemar.
Marc Papé, est-ce une décision qui vous a surpris?
Enfin, oui et non. Oui, dans le sens que je ne fais pas trop confiance, même aux démocrates, les soi-disant progressistes, parce qu'ils ne sont pas très, très, très consistants avec leur politique et leur idéologie. Il y a toujours un gros fossé. Donc, de ce point de vue, oui, je suis surpris. Maintenant, je ne suis pas surpris dans le sens que normalement, du point de vue de leur idéologie, ça devrait être leur politique, en fait, à la réforme. Mais ma question plutôt, comme je n'ai pas toutes les informations sur sa décision, est-ce que ça vient dans le contexte général d'une réforme de l'institution carcérale aux États-Unis ou bien c'est juste une petite décision ponctuelle concernant la question de l'usage de marijuana? C'est peut-être mon inquiétude. Si cela intervenait dans le contexte général de réforme de la prison, du système carcéral aux États-Unis, ça aurait eu un impact plus important que cette décision ponctuelle.
Dans le cadre de son plan pour l'Amérique noire, il envisageait de dépénaliser la consommation de cannabis et annuler automatiquement toutes les condamnations antérieures pour consommation de cannabis. Promesse de campagne, promesse tenue.
Oui, c'est ce que je dis que si, du point de vue idéologique, c'est l'exécution d'un plan politique. Oui, je suis d'accord, parce que ça entrerait dans la logique de ceux qui se disent progressistes. Mais d'abord, mettre une connotation noire, si c'est possible, je pense que c'est une erreur, parce que la question nous concerne d'ailleurs les plus grands consommateurs de cannabis et de drogue dans ce pays, ce sont les blancs, pas les noirs. Donc, vous voyez ça du côté de la race, c'est un peu injuste, parce que ça consolide la perception que la drogue et les noirs vont ensemble. Et ça, je suis contre cette posture. Mais je dis simplement que c'est un pas dans la bonne direction. Mais il faudrait que ça soit fait dans un contexte global de réforme de l'institution carcérale. C'est une institution fondamentalement raciste aux États-Unis.
Monsieur Beaver, vous êtes avocat. Est-ce possible d'échapper à la prison quand il s'agit de ce type de délit?
Oui, ça dépend de votre histoire. Ça dépend de la quantité de cannabis, de marijuana. Donc Biden parlait de, disons, la simple possession de moins de, je sais pas, plusieurs grammes. Mais alors, si vous avez un matelas plein de marijuana, tu vas en prison.
Alors, vous dites que la mesure de Biden est une bonne chose, mais étrangement, la marijuana reste illégale au niveau fédéral.
C'est ça le problème. La marijuana, c'est classé comme héroïne, hein, plus que comme LSD. Très dangereux, ce qui n'est pas vrai. Donc, les gens qui ont été arrêtés avec, disons, 2-3 cigarettes de marijuana, ça c'est vraiment dommage ce qui s'est passé. Donc c'est pour les gens qui ont simple possession, pas les mecs qui trafiquent, qui vendent, qui achètent. Non, c'est pas ça.
Et pour vous, que symbolise alors l'annonce de Joe Biden, pour vous, si la marijuana restait légale au niveau fédéral?
Oui, il fait ce qu'il faut faire. Il libère, si tu veux, il libère les gens de cette histoire pénale. Donc c'est une très bonne chose. Essayer d'avoir un boulot, un job, avec, disons, comment on dit, un record, histoire... possession de marijuana au niveau fédéral, c'est pas une bonne chose. Donc ça va certainement aider pas mal de gens.
Laura, selon une récente étude, la consommation de marijuana chez les jeunes Américains a atteint des records l'année dernière. Est-ce bon pour les États-Unis?
Le problème ici avec ce phénomène particulier est de la criminaliser. C'est ce qui cause réellement beaucoup de tort. Je vois cela comme une question distincte de la consommation de drogue en général. Il y a la consommation de drogue qui n'est pas novice et la consommation de drogue qui peut être problématique en général. Vous savez, la consommation de marijuana n'est pas aussi problématique que la consommation de drogue, d'autres types de drogue, lait ou peut-être l'être. De nombreuses études montrent qu'elle est utilisée à des fins médicinales et qu'elle est légale dans 31 États, dans une certaine mesure aux États-Unis. Je considère que la criminalisation de la consommation et de la possession de drogue est un vrai problème. Et ce qui cause des dommages vraiment dévastateurs, c'est qu'en particulier dans les communautés noires, latino et indigènes, Elle y est appliquée beaucoup plus que dans les communautés blanches, par exemple. Je ne sais pas pourquoi. À moins que cela ne cause un préjudice personnel, individuel, je pense que c'est un choix individuel, à moins que cela ne cause un problème dans la vie d'une personne moyenne. Je n'ai pas de problème avec le fait que les gens consomment des drogues ou, en fait, Human Rights Watch prend la position que la consommation et la possession de tout type de drogue ne devraient pas être criminalisées. Bien sûr, il existe des circonstances dans lesquelles la consommation de drogue peut être problématique et cela devrait être traité comme une question de santé. Cela ne devrait pas être criminalisé, donc cela dépend vraiment des circonstances individuelles.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Dans l'Amérique et vous, ce soir, nous parlons de la justice sociale. Marc Papé, vous êtes enseignant. Est-ce que vous voyez des conséquences chez les jeunes qui consomment du cannabis?
Oui, moi je prendrais peut-être une position relativement contraire à la mouvance générale ici aux États-Unis. J'ai grandi en Côte d'Ivoire, en Afrique, et ma position est catégorique. Il y a dans une société des règles sociales qui ne doivent pas être transgressées et des règles de moralité. Ça peut rationnellement ne pas faire sens, mais du point de vue moral, il y a des transgressions, des actes qui sont perçus comme des transgressions des normes sociales. Et moi, j'ai grandi dans le contexte de mon petit village de Manabwe, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, percevant ce type d'activité comme fondamentalement immoral. Donc, la consommation de la drogue, marijuana, est absolument immorale chez nous. Et je suis venu avec cette position morale et je la soutiens. Je n'ai jamais de la vie ni consommé, ni même pensé oser consommer de la drogue. Donc, je suis dogmatiquement, hermétiquement fermé à l'idée de rendre cette drogue acceptable socialement. Donc, il y a ce côté simplement de transgressions sociales. Maintenant, avec les autres conséquences sur la santé, je ne suis pas expert, mais s'il y a des liens entre ça et la santé, ça confirme ma position. Et troisièmement, je vis dans une ville, la ville de Philadelphie, où la drogue, même la consommation en public est autorisée. Et vraiment, je suis personnellement déçu de ça parce que je suis affecté dans le sens que quand je me promène en ville, un beau jour, je vais respirer l'air pur, mais on ne peut pas respirer parce que partout où on passe, même dans les jardins, dans les voies où on s'exerce publiquement, il y a ces odeurs inacceptable. Et c'est comme si moi-même je devenais consommateur de la drogue et on appelle ça second-hand smoking. Donc je suis vraiment, vraiment hermétique sur ma position que pour moi, ce n'est pas une bonne chose pour la société.
Monsieur Beaver, votre commentaire?
Je ne suis pas d'accord avec le professeur. Ça n'a rien à voir avec la moralité. Si on le traite un peu comme l'alcool, alors tu ne vas pas se saouler encore et ensuite prendre ta bagnole et tuer quelqu'un. Hein, donc il faut le traiter un peu comme l'alcool. Il ne faut pas en abuser. On sait très bien qu'il y a des qualités, des substances dans marijuana qui sont très positives sur le plan de la médecine, par exemple. Mais à mon avis, ça n'a rien à voir avec la moralité.
Il y a beaucoup de jeunes qui consomment donc la marijuana. L'annonce de Joe Biden, est-ce qu'elle peut être interprétée comme un appel du pied à cet électorat à un mois des élections de mandat, Monsieur Papé?
Oui, c'est très clair que c'est une posture électoraliste qui est un peu le côté cynique des acteurs politiques aux États-Unis aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne prend pas, on ne fait pas de politique juste pour le bien de la société, qui est un bien public, mais pour purement à titre électoraliste. Et parce que, comme je l'ai dit au début, si vraiment M. Biden était idéologiquement convaincu de sa position, il devrait discuter cette question dans le contexte général des réformes du système carcéral et non pas simplement ce petit mouvement spectaculaire. Et il s'adresse à la communauté noire, ce qui, à mon avis, confirme une posture raciste de la part de certains entre-groupes progressistes politiciens en Amérique.
Monsieur Beaver, une décision électoraliste?
C'est une très bonne chose pour gagner des voix. Les gens qui vont voir leur record, comme on dit, effacé, ils vont voter certainement pour Biden ou pour un autre démocrate. Ah oui, il y a un côté politique, évidemment.
Laura, est-ce que vous pensez que ça peut être un argument électoral?
It's actually kind of a bipartisan issue in the United States. There's a lot of Republican support.
C'est en fait une question bipartisane aux États-Unis. Il y a beaucoup de soutien républicain pour la décriminalisation dans de nombreux États. Ce n'est pas universel. Les démocrates sont probablement plus nombreux à être favorables à la décriminalisation, en particulier pour la possession de marijuana. Il y a eu beaucoup de différences. L'opinion publique américaine a changé de manière assez spectaculaire sur cette question au cours des 10 dernières années, je dirais. Je ne sais donc pas si cela va l'aider ou lui nuire politiquement, mais je pense que c'est la bonne chose à faire et la chose intelligente à faire. Et je dirais probablement que dans l'ensemble, la majorité des électeurs américains pensent que c'est positif. Oui, il est intéressant de noter que les Noirs, les Latinos et les Autochtones sont ceux qui ont été le plus touchés par la criminalisation. Ils représentent 70% des personnes en prison fédérale pour possession de marijuana, par exemple. Et de loin, la grande majorité des arrestations ont lieu dans ces communautés. Mais ce sont les Blancs qui profitent de la décriminalisation de la marijuana et qui gagnent les millions de dollars qui sont faits maintenant. Donc, vous savez, il y a une législation que, vous savez, nous essayons de faire passer. Ces lois égaliseraient un peu plus le terrain de jeu et permettraient aux personnes qui ont été touchées par la criminalisation de bénéficier financièrement de la commercialisation de la marijuana à l'avenir. Mais c'est un gros business.
Monsieur Pape, les ventes de cannabis légal aux États-Unis s'établissaient l'an dernier autour de 25 milliards de dollars et tous les experts prédisent au secteur une croissance rapide dans les prochaines années. L'intérêt financier est très substantiel.
Oui, c'est vraiment dommage qu'un pays comme les États-Unis puisse même envisager, comme on appelle, de fonder son économie ou bien une partie de son économie sur la vente de drogue. C'est vraiment dommage. Et le taux de consommation est même surtout alarmant. Peut-être qu'il est révélateur d'une profonde crise sociologique en Amérique qui est bien traitée. Encore une fois, je voudrais peut-être clarifier ma position. Je ne suis pas en train de dire que pour certains secteurs où ça pourrait être un traitement médical, d'accord, mais moi, d'aller marchander, créer un système économique basé sur ce trafic de drogue, je suis profondément contre ça. Ce n'est pas simplement pour des questions de moralité, mais des questions idéologiques aussi. Je pense qu'on peut orienter la vie de la jeunesse dans un autre secteur. Et en fait, même peut-être Mme Laura a fait un très, très, très bon point de ce qu'elle vient de dire, qu'en réalité, la drogue est en train d'être décriminalisée, pas parce que les soi-disant progressifs politiquement parlant aux États-Unis, comme Biden et autres, tout d'un coup ont vu la lumière sur le sort des jeunes noirs ou latinos, mais parce que effectivement une classe politique blanche profite de ça économiquement. C'est ça qui est la vérité. Et moi, je suis foncièrement contre cet élément-là, parce que je connais, je sais l'effet dévastateur de cette drogue sur les jeunes populations, particulièrement dans les communautés noires et latines. Et je souhaiterais vivement, je prie le bon Dieu, les ancêtres, que ce type d'activité ne gagne pas du terrain en Afrique, parce que ce serait absolument dévastateur pour nos jeunes, notre jeunesse en Afrique. Donc je reste sur mes positions de moralité, mais aussi de conséquences négatives sur la vie de nos populations.
Dans son ensemble, la population américaine est très majoritairement favorable à la légalisation du cannabis. Selon une enquête menée par le centre Pew Research l'an dernier, 91% des adultes pensent que la marijuana devrait être légale pour un usage médical, pour un usage récréatif ou les deux à la fois. Monsieur Buveur, je voudrais vous entendre sur cet aspect économique.
Oui, le problème, c'est que, surtout en Californie, c'est taxé d'une manière incroyable. Donc, l'élément criminel, pour eux, c'est fantastique, puisqu'ils ne paient pas d'impôts, pas de taxes. Donc, le mec qui essaye de respecter la loi et de vendre légalement marijuana, ils vont faire faillite. C'est très difficile. Mais les criminels, ils sont très heureux. Hein? L'idée de légaliser la vente en Californie, c'est un choc fabuleux.
Aujourd'hui, trop de personnes sont incarcérées aux États-Unis et trop d'entre elles sont africains-américaines, précise le plan pour l'Amérique noire du président Biden. Pour construire des communautés sûres et saines, nous devons repenser qui nous envoyons en prison, comment nous traitons les détenus et comment nous les aidons à obtenir les soins de santé, l'éducation, les emplois et le logement dont ils ont besoin pour réintégrer avec succès la société après leur peine. Marc Papé.
Encore une fois, comme je l'ai dit au début, et s'il y a une discussion sur les réformes générales du système carcéral aux États-Unis et que la question de la décriminalisation du marijuana s'insère dans ce contexte, je n'ai pas de problème avec ça et je le souhaite vivement parce que une des grosses hontes, une des grosses, ce que j'appelle pathologie de l'Amérique, c'est le complexe, en plus du complexe militaro-industriel, c'est aussi le complexe de la prison. Donc, s'il y a une discussion sérieuse, il doit y avoir une discussion sérieuse pour régler cette question de plus de 2 millions de personnes en prison aux États-Unis. C'est tout un État, c'est un pays, la population d'un pays. Et ça devrait être une priorité des régimes, soit disant progressifs, mais ce n'est pas le cas. Comme on a dit au début, la décision de Biden est un petit pas, mais pour que ça ne soit pas simplement à titre électoraliste, il faudrait qu'il y ait une discussion sérieuse et qu'il passe une discussion sur la réforme du système carcéral.
Monsieur Beaver?
Il faut faire quelque chose, il a bien raison. Quand on voit les milliers de gens, les statistiques montrent que les gens de couleur, noirs, mexicains, les gens de l'Amérique du Sud, etc., leur pourcentage en prison, alors c'est énorme. Alors pourquoi? Il y a plusieurs réponses, mais certainement il faut faire quelque chose, c'est pas juste. Espérons que dans ce pays, on va trouver un moyen de faire sortir ces mecs.
Laura, que pensez-vous de cette volonté de réformer le système de justice pénale américain?
Yes, I agree with that. I think that
oui, je suis d'accord avec cela. Je pense que cette décision de gracier toutes ces condamnations pour marijuana est un pas dans la bonne direction. Je pense que pendant trop longtemps, ce pays a compté sur la police et la criminalisation pour résoudre les problèmes de société comme le manque de logement, de soins de santé ou les personnes qui connaissent des crises de santé mentale et une consommation problématique de drogue. Ces problèmes doivent donc être traités à un niveau sociétal et donner aux gens l'accès aux ressources dont ils ont besoin pour se construire une vie saine est la réponse à la création de la sécurité communautaire aux États-Unis. Se tourner vers des solutions répressives et enfermer les gens ne va pas résoudre le problème. Je suis donc d'accord avec cette position.
Je suis peut-être un peu douteux de la capacité et de l'engagement politique de M. Joe Biden pour cette réforme du système carcéral. Pourquoi? Il a passé 8 ans à la Maison Blanche avec Obama, les lieux et Obama, ça a été la mineure de leurs préoccupations. Ils étaient plutôt engagés dans des guerres frivoles et ils recommencent la même chose. Donc je suis un peu douteux de sa volonté politique et de ses capacités de faire de réussir ce projet-là.
Nous arrivons au terme de cette édition de l'Amérique et vous. Merci au professeur Marc Papé, professeur de sciences politiques en Pennsylvanie. Merci de votre participation et contribution. Merci également à Chris Beaver, avocat à Redfield en Californie. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci à Laura Peter, qui est directrice adjointe à Human Rights Watch en charge du programme américain. Merci beaucoup, Laura. Thank you so much, Laura.
Thank you for having me.
Eric Magrakiza au micro, à la mise en onde, Joselle Morissin. Excellente soirée à vous tous. Bon week-end. À la prochaine.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.